VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Le président burundais Pierre Nkurunziza a signé ce mercredi le décret pour la publication du nouveau calendrier électoral. Désormais, les élections législatives et communales auront lieu le 29 juin et la présidentielle le 15 juillet. Nicolas Pineau.
Le décret a été publié ce mercredi et appelle aux urnes tous les citoyens burundais remplissant les conditions requises par la loi. L'élection des sénateurs au scrutin indirect aura lieu le 24 juillet, selon le texte. Ce nouveau calendrier suit ainsi les recommandations de Dar es Salaam. Les chefs d'État de la sous-région avaient alors recommandé un report de 6 semaines des élections au Burundi, en proie à une contestation contre un possible troisième mandat de Pierre Nkurunziza. L'opposition et la société civile burundaise dénoncent toujours une rupture des accords d'Arusha et de la Constitution. Faux, répondent les partisans du président, qui devrait, sans réel adversaire, être réélu aisément le 15 juillet prochain. Reste à savoir dans quelles conditions ce scrutin va se dérouler, puisque des membres de la commission électorale ont démissionné. L'Union européenne a suspendu sa mission d'observation, tout comme l'Église catholique burundaise qui a retiré tous ses membres des CENI locales. Autre défi financier, l'État burundais a lancé une souscription nationale car les partenaires internationaux comme la Belgique ont gelé le financement du processus électoral en signe de protestation. Ce mercredi est encore resté calme dans Bujumbura, les quartiers contestataires étant toujours quadrillés par la police.
Nouvelle violence dans le nord-est du Nigeria. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser alors qu'elles se rendaient dans la capitale régionale Maïdougouri. Il n'y avait pas eu de victimes, indique la police citée par l'AFP. Une attaque a également été signalée au Mali la nuit passée. Et cette fois-ci, c'est le sud du pays qui est frappé. Selon un élu local cité par l'AFP, une trentaine de djihadistes présumés ont ouvert le feu sur le camp militaire de Misseni, près des frontières ivoiriennes et burkinabées. Au cri d'Allah Akbar, ils auraient tué un gendarme et pris le contrôle du camp où ils ont mis leur drapeau noir, a précisé l'élu. Les terroristes ont lâchement tué l'adjudant Basiaka Kone, a affirmé à l'AFP un ministre sous couvert de l'anonymat. Tension politique en République démocratique du Congo. Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, propose ses bons offices pour permettre un dialogue national en vue d'élections apaisées. Une médiation de l'ONU entrerait dans le cadre posé par la résolution 2211 approuvée en mars et autorisant la MONUSCO à promouvoir un dialogue politique en RDC. Elle ne sera cependant possible que si la constitution congolaise est respectée, précise le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC.
Je salue alors le gouvernement, le président, de lancer les consultations parce que c'est la chose qu'on a fait. Le président, il a convoqué les groupes sociaux, les églises, aussi les partis politiques et pour avoir des consultations. Je crois qu'il veut aussi parler avec la communauté internationale en ce qui concerne maintenant les bons offices. En anglais, on dit alors « it takes two to dance a tango », il faut 2 personnes pour danser. C'est quelque chose... Nous avons offert nos bons offices, mais il faut avoir le consentement des 2 parties. Ça ne marche pas si on impose, on ne peut pas imposer les bons offices. Nous sommes prêts ici, nous sommes impartials, mais nous ne sommes pas neutres. Nous sommes basés sur la résolution 2211. Nous avons le principe de constitutionnalité du calendrier électoral menant jusqu'aux élections au novembre 2016. Nos bons offices, nous sommes prêts à le faire, mais il faut avoir aussi les autres. Normalement, nous allons avoir une réunion aussi, communauté internationale, avec le chef de l'État, et puis on pourra discuter ces choses.
Martin Kobler, le chef de la MONUSCO. RDC toujours, les militants du mouvement Filimbi arrêtés mi-mars à Kinshasa n'avaient vraisemblablement aucune visée terroriste. C'est ce qu'indique un rapport d'enquête parlementaire appelant la justice à statuer rapidement sur les 2 d'entre eux encore détenus. Souvenez-vous, une 30aine de personnes, parmi lesquelles des activistes sénégalais et burkinabés, avaient été arrêtés lors d'une réunion d'échange sur la bonne gouvernance. Les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et Austral ont signé aujourd'hui en Égypte un traité de libre-échange. L'accord englobe la moitié orientale du continent et doit faciliter la circulation des biens et des marchandises. La tripartite est une nouvelle donne pour l'économie africaine, nous explique Salwa Jafari.
Après 5 ans de négociations, la tripartite voit enfin le jour. L'accord est historique. L'Union européenne pourrait bientôt perdre son titre de plus grande zone de libre-échange du monde en termes de population. 26 des 54 pays africains sont partants, soit 625 millions d'habitants et plus de 1 000 milliards de dollars de PIB. C'est dire l'ampleur de ce traité. Du Cap au Caire, la tripartite englobera l'Afrique du Sud et l'Égypte, les deux économies les plus développées du continent, ainsi que des pays dynamiques comme l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique et le Kenya, mais pas le Nigeria, premier PIB d'Afrique. Seulement 12% environ des échanges commerciaux en Afrique ont lieu entre pays du continent. Les conflits inhérents aux pays africains et l'épaisseur des frontières sont à blâmer. Le nombre de documents qu'il faut fournir pour importer ou exporter ralentissent les échanges. L'accord d'aujourd'hui a donc pour but d'inverser ces tendances. Il traduit la volonté des États de travailler sur leur intégration économique et à créer un environnement favorable pour le commerce. Les 26 ont toutefois du pain sur la planche. Il faudra attendre plusieurs mois avant que ne se concrétise véritablement la tripartite. Le traité devra être ratifié dans les 2 ans par les parlements des 26 pays.
Un attentat suicide a été déjoué en Égypte. Il visait le temple du Karnak à Louxor, un site touristique. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les djihadistes sont suspectés. D'après le gouvernement, les assaillants ont essayé de s'introduire dans le temple et ont dû s'arrêter à un poste de contrôle du temple. Lorsque la police leur a demandé d'ouvrir leur sac, l'un des hommes s'est enfui et a déclenché sa veste bourrée d'explosifs. Les policiers ont immédiatement ouvert le feu, tuant l'un d'eux et blessant grièvement l'autre à la tête. La trokossie, une pratique séculaire du sud du Ghana dans le collimateur de l'ONU, un comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant dénonce la persistance de cette tradition selon laquelle des petites filles vierges sont offertes comme esclaves à des religieux. En dépit de son abolition en 1998, cette pratique demeure courante dans la tribu Ewe.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'agence européenne Frontex, chargée des frontières extérieures de l'espace Schengen, va renforcer sa mission en Grèce en raison du grand nombre de migrants fuyant la Syrie. Nathalie Barge.
Le directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, a déclaré ce mercredi à Berlin devant la presse que l'opération Poséidon serait élargie dans les prochains jours, rapporte l'AFP. Cette mission de contrôle et de sauvetage en mer Égée entre la Grèce et la Turquie devrait s'étendre à d'autres îles grecques alors que beaucoup de migrants arrivent à Lesvos et Kos. Le nombre d'officiers de frontières en Grèce sera augmenté, recommande à la Commission européenne M. Leggeri, ajoutant que ce pays a besoin de plus de moyens financiers pour héberger les migrants. Depuis début 2015, environ 50 000 entrées irrégulières ont été enregistrées en Grèce et quelques 55 000 en Italie, a dit le chef de Frontex. Selon le HCR, plus de 100 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer Méditerranée et près de 1 800, dont des enfants, sont morts ou ont disparu lors de la traversée, indique l'OIM.
Le mouvement chiite libanais Hezbollah est maintenant engagé dans la lutte contre le groupe sunnite État islamique, a annoncé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dans un discours que cite l'AFP, Nasrallah a déclaré que la bataille contre Daesh a commencé à la frontière entre la Syrie et le Liban. Il a fait état, selon la même source, de violents combats au cours desquels des dizaines de djihadistes auraient été tués. Il n'a pas précisé les pertes subies par les combattants du Hezbollah. Sachez aussi que le gouvernement américain a confirmé ce mercredi l'envoi de 400 nouveaux formateurs militaires en Irak afin de renforcer les troupes irakiennes dans leur projet de reconquête de Ramadi. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec et je cède la place à Claire Morin-Gibourg qui vous propose Sahel Plus.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.